Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Roulin Daf Ayin He en haut de la page. Mantana Avar Bana Ushar Alach Le Betakvot et Nitma. Qui est celui qui pense que ce Ben Pkoua qui est passé dans un fleuve, sachant qu'il a été trempé et rincé, donc maintenant il est perméable à la Touma, et après, en allant dans un Betakvot, en étant vivant, il est impur. Normalement, les bêtes vivantes ne peuvent pas être impures, mais lui, comme il est Ben Pkoua et qu'il est consommable dans l'immédiat, eh bien, il est défini comme Ochel et donc perméable à la Touma. C'est Rabbi Yossi Haglili qui pense que il est perméable à la Touma, on donne de la nourriture, mais il faut quand même le rincer comme toute nourriture qu'on doit rincer avant d'être perméable à la Touma. Ils nous disent impensable et impossible de dire qu'il serait perméable à cette Touma puisqu'il est encore vivant. Une bête vivante est imperméable à la Touma, un homme vivant est perméable à la Touma, mais pas une bête. Ce que Rabbi Yochanan nous enseigne, c'est cohérent parce qu'il nous a déjà enseigné quelque chose qui ressort. Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi Haglili et Beit Shammai, Amud Davar Echad. Rabbi Yossi Haglili, Hadamaram, donc ce chidouche qui considère que cette nourriture qui est cachère à la consommation, elle est définie comme Ochel. Beit Shammai nous disent, Dagim et Matay Mekamlin Touma, à partir de quand les poissons sont perméables à la Touma, Beit Shammai, Mouemi Sheyit Sonou, dès que tu les as pêchés, sachant qu'un poisson n'a pas besoin de Shrita, il est donc défini Ochel dans l'immédiat. Ça rejoint ce qu'on vient de voir. Un animal vivant, tant qu'il est caché à la consommation, il est défini comme Ochel. Beit Hillel pense Miché Amutu dès qu'il meurt, Rabbi Akiva nous dit Miché Ache En Yocholim Nichriot. Tout de suite, on va dire ce que Rabbi Akiva va rajouter. Mais Belayouf, Amar Yochanan, Dag Mekarte et Kamilayouf. Si c'est un poisson qui a été pêché, qui est encore un peu vivant, mais qui va sur sa mort, d'après Beit Hillel, tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas perméable à Touma. D'après Rabbi Akiva, le fait d'être assuré de mourir, c'est déjà suffisant pour définir comme Ochel. Ben, la Frisa, le double Dagim, si on est très fort, Marou. Si ces poissons-là sont avec des sivanines de Tréfa, est-ce que ils vont avoir le statut de Ochel? Donc, une Tréfa, comme on va voir tout de suite, il y a débat, est-ce que Chaya ou pas, est-ce que ça peut vivre ou pas? Tiba et les madama Tréfa Chaya, Tiba et les madama Tréfa en Chaya. Est-ce qu'un animal Tréfa avec les poumons percés, c'est un animal viable ou pas? Et la question que je me pose dans les poissons, c'est d'après les deux avis. Tiba et les madama Tréfa Chaya, celui qui pense qu'une Tréfa peut survivre, des Mahoud et les Fichar Feuta. C'est vrai que dans une bête qui a beaucoup de vigueur, elle peut survivre à sa blessure, c'est pour cela qu'elle s'appelle Chaya. Mais les poissons, leur vie tient un fil, donc ils sont plus faibles, donc il va sur sa mort. Donc peut-être que Rabbi Akiva considérait qu'il est déjà Ochel à ce moment-là. Même si celui qui pense que Trefa c'est un animal qui n'est pas viable, tout ce qu'on dit que cette notion de Trefa c'est seulement dans Bema qui existe une notion de Shrita et Trefa est interdit à la consommation. Dagim den bevinan Shrita, il n'y a pas de notion de Trefa dans un lag. Je pourrais dire que cette notion de tréfa ne toucherait pas les poissons, ce qui fait que ça n'aurait pas effet. Donc, d'après Rabbi Akiva, l'animal qui est sur sa fin de vie est défini comme perméable à la Touma, sur ces poissons-là. Maintenant, cet animal qui est tréfa, d'un côté, je peux dire, à plus forte raison, tréfa, même d'après la démarque tréfa chaya, mais dans les poissons, c'est sûr qu'il va en mourir, donc c'est un animal mort, ou cette notion de tréfa n'existe bichlal pas dans les poissons, et donc ça n'aurait pas effet sur les poissons pour dire qu'il est perméable à la Touma tréco. Itilan Nefel. Si jamais la BMA, elle a eu un petit, Nefel, qui ne pourra pas vivre. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à maturité. C'est un prématuré. Il y a une différence fondamentale entre BMA et Chaya. Les Chalavim de la BMA sont censés être mis sur le Misbéach. C'est pour cela qu'ils nous sont interdits. Et de Chaya, on ne peut pas les mettre sur le Misbéach puisqu'une Chaya n'est pas sacrifiable et le Chalav est permis. Maintenant, ce Nefel, qui est prématuré, est-ce que son chélev, il est défini comme le chélev d'une BMA, c'est-à-dire, est-ce que lui est défini comme une BMA, sachant qu'il est prématuré, ou est-ce que, non, je considère que son chélev n'est pas le chélev d'une BMA, parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturité, et donc le seul interdit qu'il y aurait, ça serait Nevela, ça serait pas chélev. La différence entre les deux, c'est que sur Nevela, il y a Malkout, et sur chélev, il y a Karet. Ah, le chélev d'abord. Dès qu'il sort dans le Avir Aolam, c'est-à-dire dès qu'il va naître, il a le statut de Béma. Rachidaki, je pense que non. Parce que Khalashim, Garmé, il faut, en plus d'être né, il faut être arrivé à maturité. Khalashim, le mot, c'est des mois, c'est-à-dire le nombre de mois de grossesse. Et qu'il y a d'ailleurs autre version. Quand les Khadik, l'okanlo, Khalashav, Kulum. Tout le monde est d'accord que, tant qu'il n'est pas arrivé à maturité, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas défini comme Béma. Qui pigara, dojit yado l'aimé Béma. Mais talash, chélev, chélbet, tishachai. La marquette, elle n'est pas quand il est sorti avant maturité. La marquette, elle est quand l'animal est ben tisha, il y a eu les mois qu'il fallait, et on a pris un chélev tout en laissant le houbar dans le ventre de sa mère. Mais non. Abi Yochanan nous dit, chélev, chélev, Béma, chalashim, garmé. Sachant qu'il est arrivé à maturité, c'est déjà défini comme Béma, le chélev retiré, et donc chélev karet. Je pense que chélev, chélev, chaya, pas du tout. Son chélev est défini comme chélev, chaya. Pourquoi Khadashim va à Viragarmé? Il faut non seulement maturité, mais naissance. Or, il n'y a pas eu de naissance. C'est pour cela que le Khalev n'est pas défini comme Béma. Et il y a le Khalev Shakish. Donc, il y a le Khalev qui pense que on se suffit de Khadashim pour lui donner le statut de Béma. Pourtant, il est marqué dans la Torah. Ma Khalev Shakilotam Rod Bansham, Mutsa Miklal Shlil. Il est marqué que si jamais on a fait le Korban d'une Béma, mais on Béret, on va prendre les parties de Béma, mais pas du Houba. Maintenant, dans la Torah, c'est marqué que dans Korban Hasham, il y a marqué qu'on doit faire l'Aktara des Chalavim, donc de ces graisses-là, acheter avec la tête de rang. Alors à quoi ça sert? Parce que c'est une halakha qui était appliquée dans tous les Korbanot, on le connaît déjà. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'enseigner? Machela ou Shtekla Tamar de Hasham ou Tsem Kranchlin. Dans Hasham, il y a une particularité, ça ne peut être qu'un mal. Donc jamais on ne peut avoir un Houbar dans cette histoire-là. Donc, puisque dans Hasham, on te dit, c'est ce qu'il doit, c'est ce qu'on a mettre sur le Mizbeach, c'est l'Aktara. Ah, c'est seulement la bête elle-même, mais pas le houba, parce que ça n'existe pas. De là, je vais apprendre pour d'autres bêtes qui peuvent être des corbanes, même si elles sont femelles. Même si elles ont un petit, c'est seulement le chélève et les jetés à clair de la BMA, mais pas du houba. Dire à Bukhalan, moi qui pense que la bête étant arrivée à maturité, elle a un statut de BMA, j'aurais pu croire que on doit mettre les membres du Houbar sur le misbeach. Et là, il dit d'ar, mais toi qui penses que la maturité n'est pas suffisante, une fois naissance, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Répond Rabbi Rachakish, t'as dit la même acha. Tu as raison, mais moi, ma source, c'est justement d'ici. Le fait que la Torah l'a exclu de Haktara, ça prouve que ça n'est pas Béma. Donc, allez avoir l'autre version. Et tu verras que la Bukhalam, Machela ou Shtekla Tabra de Hasham, Mutsa Miklashlil, Afkol Mutsa Miklashlil, Mishabal dit Mishouachim et Terechana, il a dit d'Ach, Likarev, je ne comprends pas pourquoi, d'après toi, on ne les sacrifie pas, puisque tu penses que c'est oui Béma. Ah bah, l'imide, la Béma Konsersman, ça n'est pas toute Béma qu'on peut sacrifier. La preuve, une Béma, le jour de sa naissance, elle n'est pas sacrifiable, comme, parce que ça s'appelle Mekonsersman, il faut qu'elle ait au moins 8 jours. Alors, bien que Moshe Houbar a le statut de Béma, il a été exclu de statut de Corban. Amarabiani. Achochet est un trefa. Donc il a fait la shkita d'une BMA qui est trefa. Au Matsaba ben Tisha Chai. Et là, dans le ventre de la mère trefa, il y avait un Houbar qui avait 9 mois et qui était vivant. Les divrés à Oser. Assur, les divrés, les moutards, les divrés matir, Oser. On a une marloka entre Rabbi Meir et Rabbi Houda. Est-ce que le ben Pkoua qui s'est avéré, qui s'est trouvé vivant dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il est autonome et donc la shrita de la mère n'a pas été effective pour lui? C'est l'avis de Rabbi Meir. Donc ça c'est les divrés à Oser, c'est-à-dire il t'interdit de le consommer sans faire shrita parce qu'il a une certaine autonomie. Dans ce cas-là, le fait que je considère qu'il est autonome, donc la shrita de la mère n'a pas été effective pour lui. Donc maintenant, sachant que sa mère a vécu une shrita, mais qu'elle est trefa, la shrita de la mère n'a pas été pour lui. Donc maintenant, c'est un houbar autonome à 100%. La shrita qu'on lui fera sera suffisante et c'est ce qu'il faudra faire. Mais les divrei matir, d'après Abudin qui m'a dit qu'il était relié avec la shrita de la mère, même si lui-même, il est arrivé à maturité. Donc la shrita de la mère, elle était effective pour lui. Dans ce cas-là, le vlad serait interdit. Pourquoi? Puisque la shrita de la mère, il a déjà vécu une shrita. La deuxième shrita que tu lui ferais ne sert à rien. Rava nous dit non. Même d'après divrei hamatir, c'est-à-dire même d'après la Pouda, namé moutar, Rava se venir shabbat voilà. Le fait qu'il a déjà vécu une shrita n'est pas une tare, n'est pas un défaut. On lui a donné la possibilité de profiter de la shrita de sa mère, mais ça ne veut pas dire que il ne peut pas profiter de sa propre shrita à lui. Donc ce qu'on vient de le même cas, on vient de voir tout de suite, eh bien, on tourne la page, on doit lui faire une shrita à lui, on doit offrir au Kohen ce qu'on a l'habitude d'offrir, s'il est mort, il n'y aura pas de Tova. Pourquoi? Parce qu'il profite de la shrita de sa mère qui enlève le statut d'impureté. Moi, les rabbins, t'as une shrita. Si tu dis qu'il a besoin d'une shrita, d'après Abimir qui pense qu'il a une certaine autonomie, il est tout seul, il se débrouille. Il met ta ombre, il est tapé, mais ça, comment se fait-il que si il est mort maintenant, il ne dégage pas de Touma? C'est forcément parce qu'il pense comme Rabbanan que la shrita de la mère était effective pour lui. Donc c'est incohérent. Si tu penses que il faut lui faire une shrita à lui et que ça marche, c'est possible parce que tu penses qu'il est autonome, il est séparé du corps de sa mère. Donc, si après il va mourir, c'est comme toute bête qui va mourir, qui serait névé là. Si au contraire tu me considères que il est dépendant de sa mère, il va subir la shrita de sa mère. Donc on peut pas lui faire la shrita. Je comprends pourquoi il n'y aurait pas de Touma, parce que la shrita de la mère aurait été effective pour enlever le statut de Touma, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que la shrita serait effective chez lui. Donc en fait, lui, il rejoint le premier avis qu'on a évoqué il y a un instant. Dans le deuxième avis, on peut faire la shrita de la mère, on peut dire qu'elle est effective pour le Houbar, et le Houbar, on peut lui faire la shrita aussi. C'est ce qu'il va lui répondre. Et Tamir, alors il lui dit, mais d'après toi, elle est Tamir à Bichria. Donc il a fait la shrita de la mère qui était très fâche. Le Houbar avait 9 mois, il était vivant. C'est marqué clairement qu'on doit lui faire la shrita, et d'un autre côté, qu'il n'a aucune touma. Donc, Taoun Shrita Keman, sur qui on peut se baser pour expliquer qu'il y a besoin d'une Shrita du Houbar, sur Abimir qui pense qu'il est autonome, la Shrita de la mère, il ne l'a pas vécu. Et d'un autre côté, c'est marqué que s'il est mort, Taoun il est amé. Donc c'est comme Chachamim. Il dit Halo Kashia. Rabbi Chia, il kvar metzao met kamar. On parle pas d'un cas où on a fait la Shrita de la mère, après le Houbar est sorti vivant, et après on l'a sorti vivant, il est mort. On parle pas de ça. Toi, tu parlais d'un cas où il y a eu Shrita de la mère, naissance du Houbar vivant, et après il est mort. Moi, je parle pas de ça. Je parle de deux cas de figure. Shrita de la mère et le petit étaient vivants. Shrita de la mère et le petit étaient morts. Et dans ce cas-là, même Rabbi Meir qui crie sur les toits, hein, qu'il y a autonomie du Houbar qui est vivant, c'est seulement quand il est vivant. Mais quand il est mort, il n'est pas autonome. C'est pour cela que la Shrita de la mère va profiter au Houbar, dans le cas où il s'est avéré être mort en né. Donc il était mort dans le ventre de sa mère. Mais s'il était vivant d'abord, et qu'après il en est mort, comment tu peux avoir d'un côté le statut d'autonomie en disant tu peux lui faire la Shrita, et d'un autre côté il n'est pas Touma. Elle a dit là, Kachia. Amaré, dit Dame au Kachia. Ah bah, c'est venu, Marchabah. Le deuxième avis qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire, il a profité de la shrita de la mère. Oui, et alors, ça ne veut pas dire que lui, on ne peut pas lui faire la shrita. Il peut vivre à nouveau sa propre shrita. C'est pour cela que Touma, il n'aura pas parce qu'il a profité de la shrita de la mère, mais on peut lui faire sa shrita lui-même. Ravizera donc a rencontré Ravasi qui disait cet échange-là. Ravizera a dit Ravizera, Isha Vechalam Ravichalam. Ravichalam a dit comme toi, ce chidouche-là de dire que on peut faire lui considérer qu'il profite de la shrita de sa mère, et pourtant, on peut lui faire la shrita aussi à lui-même. Michal n'est pas légal à Ravishon Mulakish, puisque tu me dis que Ravichalam, c'était son avis, et que tu n'as même pas l'avis de Rish Lakish en disant qu'il était d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il était en désaccord? L'Agma donne une réponse. Mishaha veshahele veshatikle. Rish Lakish attendait que Rabbi Chanan termine son explication pour réagir, et Ravasi est parti avant que Rish Lakish ait réagi. Et Kadamri Mishta veshatikle. Autre réponse, c'est que Rish Lakish ne réagissait pas, non pas simplement parce qu'il se taisait, mais parce qu'il était en train de boire. Et Rabbi Yassi n'a pas attendu la réaction de Rish Lakish. C'est pour cela que le silence de Rish Lakish n'est pas une preuve de son avis. On ne sait pas ce qu'il a dit. Dans la Mishnah, on a vu que le Oubar qui est né après qu'on ait fait la Shrita de la mère, il est cachère. La Mishnah Shel Zuri nous a dit, même si maintenant il a 5 ans et qu'il est en train de labourer, il est cachère. Ayanu Tanakama, c'est ce que Tanakama slash Rabbi Uda avait dit. Rabbi m'a pensé que comme il est né vivant, il est autonome, la Shrita de la mère ne lui profite pas. Mais d'après Rabbi Shmuel Shel Zuri et Tanakama, on arrive à la même conclusion. D'après Tanakama, il y a une certaine peur de permettre ce Oubar quelques années après. Qu'est-ce que les gens vont voir? Un animal vivant que tu vas manger sans Shrita. Ils vont pas se rappeler de son historique et se dire c'était un ben quoi. C'est pour cela que Tanakama interdit, Rabbi Shmuel Shel Zuri te dit, même s'il a 5 ans, etc. Amar Meshachia, les livreurs, mère Rojeshi, les Zerav. Donc, de la même manière que un Oubar est affilié à sa mère, il est aussi affilié à son père. Ben quoi, Balbeva Maléata, Avlad El Motakana. Si on a un Ben quoi, qui est censé léguer à son fils ce statut de cachot en Shrita, lui, il est caché sans Shrita. Sa femme, entre guillemets, n'est pas cachère sans Shrita. Le fils, il a d'un côté sa mère, les gènes de sa mère qui lui disent, il faut que tu ailles faire la Shrita. Les gènes de son père qui lui disent, faut pas que tu ailles faire la Shrita. Et c'est comme si tu l'avais déjà vécu. Donc, t'es tiraillé entre les deux. Donc, on peut rien faire avec toi, t'es pas cachère. Amarabaye, à quoi le mot dit, mais kalut ben quoi, au sujet de la marque locale de Tanakama, Bishon, Bishézouri. Est-ce qu'on a peur du regard des gens? Si jamais on a un kalut, c'est-à-dire un oubar, qui est né avec les sabots pas fendus, qui est né d'une mère avec les sabots fendus, dans ce cas-là, même Tanakama est d'accord qu'il est permis. Maïtama, comme il t'a défini à Mitka Trialanche. Avec cette naissance, elle est formidable, elle est extraordinaire. Tout le monde se rappelle de cette naissance de ce oubar qui n'a pas les sabots fendus. Ce qui fait que l'historique de ce oubar est dans le souvenir de tous. Et c'est pour cela que on n'a pas besoin d'interdire sans Shrita, parce que les gens se rappellent, mais oui, on se rappelle très bien la chair de Monsieur Seguin, tout le monde s'en rappelle. Et quand derrière, Marbé a colmodé, mais quand le Benkuta, si c'est un souvenir encore plus fort, c'est-à-dire non seulement le Oubar est né sans sabots fendus, mais la mère aussi. Donc tout le monde se rappelle que Moutar Maitama très tenue, mais car très léger. Deux choses aussi étonnantes, tout le monde s'en rappelle, ce qui fait que tout le monde se rappelle aussi de son histoire de Ben Koua, et c'est pour cela que il n'y a pas à décréter comme elle l'a fait Tanakama, dans ce cas-là, il serait d'accord. Amar Zira Amar Bichena la Rakabishon Ben Shizuri, à savoir, on permet ce Oubar, Bichena Rakabishon Shizuri Matir Bivno, ou Venblo, Atsov Koladorot, il permettait, donc, toutes les descendants, c'était permis. Khanoudin, vous moutard, vous l'assaut. C'est pas vrai. Le ben quoi lui-même est permis, mais pas plus que ça, assaut. Adou barachavou, a voulu ben quoi, d'un affal doubé aller. Il y avait un ben quoi qui a été attaqué par un ours. Et donc, l'animal allait mourir. Atal et kamé, derrière ma chie, avant les îles chartées, va lui faire la shrita. Et il sera moutard. Donc, on voit que il faut faire la shrita, comme Tanakama. Avant les Amar, Zéhiri, Amar, Bichalina, pourtant, j'ai entendu dans leur nom que Allah Khalikom, Rabbi Shem Chezouri, Vechal, Rabbi Shem Chezouri, Mathieu Bevno, ou même sauf que la Dorothée, il permettait tous les petits, d'un filo à Bukhana, nos camarades et l'abno. Et même d'après ce que tu as dit toi, que Rabbi Khan n'est pas d'accord et qu'il pense que seulement le ben quoi est permis, mais les générations à venir, les gens vont oublier, c'est donc interdit, mais lui-même tout le monde s'en rappelle, donc on devrait le permettre sans shrita. Pourquoi tu m'imposes un shrita? Rabbi Khan n'a pas dit que son avis à la halema c'était que c'était permis. Il a expliqué que pensait Rabbi Shimon Shizuri, mais il ne pense pas comme lui, il pense comme Tanakama qu'il faut interdire même le ben quoi. Donc eux, on dit que l'alakha était comme lui, mis à part ça, le loi de la colma comme chez Shana, Rabbi Shimon Shezuri, l'alakha kamoto, l'alakha elle est partout, Rabbi Shimon Shezuri est cité, on parlait, Anna qui est insurable. C'est vrai que toi tu as certains avis qui pencheraient vers Rabbi Shimon, mais moi, j'ai la Rabbi Yonatan qui nous a dit que l'alakha est comme Rabbi Shimon Shezuri dans deux sujets, mais sous cas de trois ma sœur. Donc, je maintiens ce que j'ai dit, que l'alakha n'est pas comme Rabbi Shimon, donc le ben quoi est interdit sans shrita. Ou Rabbi Shimon Shezuri s'est exprimé à l'alakha, elle est comme lui dans les soukans. Il est marqué que un homme qui demande d'écrire un guet à sa femme, il ne nous a pas mandaté pour l'envoyer. Et donc, on ne peut pas la divorcer. Mais, dans certains cas, quand on considère qu'il est perturbé, quand il nous demande de l'écrire, on considère que son intention, c'est de le lui donner, on lui donnerait. Un homme qui est condamné à mort, et va marquer le guet à l'ishti, il est de l'ordre d'écrire, sans mandater, de le transmettre. Ils peuvent l'écrire et le donner. on a élargi en disant même si avec Farash Tsebeshaera, celui qui va prendre la mer ou qui prend la route vers le dans le désert, là aussi on peut considérer qu'il est un peu perturbé. Même si c'est quelqu'un qui est malade, bien qu'on aurait pu croire qu'il a tout le temps pour penser, mais on peut aussi imaginer qu'il est perturbé, et c'est pour cela que quand il te demande de l'écrire, ça veut dire écrit d'homme. Ça, c'est dans Mesukam. Le deuxième sujet où l'Alakha est comme lui, Tomat Maaser chez Demaï. Demaï, c'est une récolte achetée à Maaretz. On suppose que les prélèvements n'ont pas été faits. Donc, t'as l'obligation de faire le prélèvement de Tomat Maaser, c'est-à-dire la partie que le Lévi est censé offrir au Kohen de ce qu'il a reçu du Israël. C'est un centième de la récolte. D'être un Tomat Maaser chez Demaï, chez Chazal et Koma. J'ai fait le prélèvement parce que Chachamim suspectait les Maaretz de ne pas le faire. Et cette partie-là, elle est interdite à la consommation. Elle s'est mélangée avec la récolte elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? Amar, Rabbi Shimon chez Zoriomer, Af Bechol, Sho'ado. Même si c'est en mode Chol, parce que Shabbat, on peut pas faire le prélèvement. Mais même en Chol, il va voir le Amaret, il lui dit, dis-moi, la vérité, t'as fait le prélèvement ou pas? Sachant qu'ici, à la clé, il y a une perte de valeur énorme. Parce que si je considère que c'est mélangé, cette récolte ne pourrait être consommée que par les Kohanim, ce qui fait que elle est sur un marché avec des les acquéreurs très limités, donc le prix va baisser. Donc, Rachamim ont été mekel de consommer, de se baser sur le témoignage du Amaretz. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. De la nourriture, un animal vivant, est-ce qu'il est perméable à la Touma? Non. Mais on a un Bishman, un vieux Seglili Bet Shamay qui pense que quand il est consommable tel quel, il est permis, il est donc défini comme Ochel perméable à la Touma. Dans les poissons de la marloquette, est-ce qu'il faut qu'ils meurent ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent vers la mort? Quand ils sont très forts, c'est posé comme question, est-ce que ça avait effet? Si jamais on a un Nefel qui est né, est-ce que, c'est-à-dire, Lokalou Khadashav, dans la première version, Marloquette Rabbi Khadar Ashtaki, jusque c'est BMA. Dans la deuxième version, tout le monde est d'accord que Lokalou Khadashav, il n'est pas BMA, mais si Kalou Khadashav, mais il est resté sans naissance, est-ce qu'il est défini comme BMA? Est-ce que son Khelev est défini comme Khelev de BMA? Ou alors, il n'est pas défini comme Khelev de BMA? Tout le monde est d'accord que ce Khelev-là n'a pas à être sacrifié quand on a sacrifié sa mère. Si jamais on a fait l'ashrita d'une BMA qui est très phare, et il y a un Ben Tishachai, donc Ben Tishachai, d'après Abimir, il y a autonomie, d'après Abiyuda, il est dépendant de sa mère. On a Marloquette, est-ce que d'après Chachamim, qui pense qu'il a une autonomie, est-ce qu'on peut lui faire l'ashrita à lui ou pas? On a vu que Rabbi Yochanan était d'accord avec cette lecture de dire que, d'après Rabbi Yehuda, on pourrait lui faire l'ashrita, puisque il a quatre possibilités de shrita. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zuri? Pardon, avant ça, on a vu que Rabbi Shimon chez Zuri pense que Rabbi Shimon chez Zuri pense que si même si le houbar est resté vivant, on peut permettre de lui faire la shrita talakama à peur du regard des gens. On a vu qu'Abaye disait, mais si sa naissance avait marqué les esprits, ou alors parce qu'il était kalout, ou alors parce qu'il était kalout ben kalout, eh bien, on permettrait. Est-ce que la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, on a débat? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Ceux qui pensent que non, ils pensent que la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, seulement dans le cas, dans Mesukan qui ordonne d'écrire un guet, et dans Tovat Maaser qui s'est mélangé avec le reste de la récolte, on a fait clairement le Hashem. N'oubliez pas de faire Hazara, faites Hazara, ne pas oublier. Et à demain, Bezrat Hashem, Ben Yadar.